Pinocchio de Secolodi, première cassette, deuxième face, page 39. Cependant, Pinocchio revint de sa stupeur. Il pleura, jeta les hauts cris, trépigna de colère, et tout en pleurant, il disait « Eh bien oui, le grillon parlant avait raison, si je ne m'étais pas enfui de la maison, si mon père était ici, je ne mourrais pas de faim à cette heure. Quelle vilaine maladie que la faim !» Et comme son estomac continuait à gémir plus que jamais, et qu'il ne savait que faire pour le calmer, il pensa à sortir de la maison et à tenter une escapade dans le voisinage, espérant ainsi trouver quelque personne charitable qui lui ferait l'aumône d'un morceau de pain. Chapitre 6. Pinocchio s'est endormi les pieds sur le réchaud. Il se réveille le lendemain matin, les pieds complètement brûlés. Il faisait justement une nuit horrible. Le tonnerre tapait très fort. Brum, boum, 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 boum. Les éclairs fendaient le ciel. Un affreux vent froid et intolérable qui soufflait avec rage. Soulevait de gros nuages de poussière, faisant bruire et craquer tous les arbres de la campagne. Pinocchio avait une peur terrible du tonnerre et des éclairs. Mais la faim fut plus forte que la peur, si bien qu'il s'avança vers la porte et la franchit, et prit sa course. En une centaine d'enjambées, il atteignit les premières maisons. Il était tout essoufflé, avec la langue pendante comme un chien de chasse. Mais tout était obscur et désert. Les boutiques étaient fermées, fermées les portes et les fenêtres, pas un chien, personne dans la rue, un pays de mort. Dès lors, Pinocchio, pris entre la faim et le désespoir, s'avisa de tirer la sonnette d'une maison et sonna sans interruption en se disant, à part soi, quelqu'un se montrera bien à la fenêtre. En effet, un vieillard se montra, le bonnet de nuit sur la tête, qui lui cria très en colère « Que demandez-vous à cette heure ?»«
Que vous me fassiez le plaisir de me donner un morceau de pain. »«
Attendez-moi, je reviens tout de suite !»
répondit le vieillard, qui croyait avoir affaire à un de ces petits vauriens qui s'amusent la nuit à tirer les sonnettes pour importuner les braves gens qui dorment paisiblement. Après une demi-minute, la fenêtre se rouvrit et le vieillard cria à Pinocchio
« Avance un peu et tends ton chapeau !»
Pinocchio, qui n'avait pas encore de chapeau, s'approcha et sentit pleuvoir sur sa tête et sur son cou le contenu d'une énorme cuvette d'eau qu'il arrosa complètement de la tête aux pieds comme s'il avait été un pot de géranium fané. Il retourna à la maison, trempé comme un canard, harassé de fatigue et mourant de faim. Comme il n'avait plus la force de se tenir debout, il s'assit en appuyant ses pieds ruisselants sur le réchaud plein de braises allumées. Alors là, il s'endormit. Et ses pieds, qui étaient en bois, prirent feu. Lentement, lentement, ils se carbonisèrent et tombèrent en cendres. Pinocchio continuait à dormir et à ronfler, comme si ses pieds eussent appartenu à un autre. Finalement, à la pointe du jour, il se réveilla parce que quelqu'un avait frappé à la porte.
Tiens,
Qui va là ?
Demanda-t-il en bâillant et en se frottant les yeux.
C'est moi !
Répondit une voix. Cette voix, c'était la voix de Jepette. Chapitre 7. Jepette, de retour à la maison, donne à Pinocchio le déjeuner qu'il avait apporté pour lui-même. Le pauvre Pinocchio, qui avait encore du sommeil plein les yeux, ne s'était pas encore aperçu que ses pieds étaient tout brûlés. Aussi, à peine eut-il entendu la voix de son père qu'il sauta de l'escabeau pour courir ouvrir la porte. Mais après avoir chancelé deux ou trois fois, il tomba sous son long sur le parquet. Dans sa chute, il fit le même bruit qu'aurait fait un sac de noix en tombant du cinquième étage.
« Ouvre-moi !»
criait toujours Jepette de la rue.
« Je ne peux pas ! Je ne peux pas !»
répondait le pantin en pleurant et en se roulant sur le parquet.
« Et pourquoi ne peux-tu pas ?»« Parce qu'on m'a mangé les pieds !»«
Et qui te les a mangés ?»«
Le chat !»
dit Pinocchio qui venait d'apercevoir le chat, lequel, avec ses pattes de devant, jonglait avec ses débris de bois.
« Ouvre-moi !» insista Jepette, « sinon gare à toi !»«
Je ne peux pas me tenir debout. Croyez-moi, je suis bien malheureux, allez, puisqu'il me faudra marcher sur les genoux toute ma vie !»
Jepette, qui croyait que toutes ces jérémiades n'étaient qu'une nouvelle friponnerie du pantin, pensa bien y couper court et, grimpant sur le mur, il rentra dans la pièce par la fenêtre. Oh, il avait bien l'intention de beaucoup dire et de beaucoup faire. Mais quand il vit son Pinocchio, son pauvre Pinocchio, couché par terre et sans pied, il se sentit attendri. Il le prit aussitôt par le cou, l'embrassa, lui fit mille caresses et maintes cajoleries. Et tandis que des larmes perlaient le long de ses joues, il lui dit en sanglotant,
« Mais mon pauvre petit Pinocchio, comment as-tu fait pour te brûler les pieds ?»« Je ne sais pas, papa, mais j'ai passé une nuit infernale, croyez-le, je me le rappellerai jusqu'au cimetière. Il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs terribles, et j'avais une faim. Et alors le grillon parlant m'a dit, « C'est bien fait, tu étais méchant, tu mérites ce qui t'arrive. » Et moi je lui ai dit, « Attention, grillon !» Lui a continué, « Tu n'es qu'un pantin et tu as une tête de bois. » Alors moi, je lui ai lancé un coup de marteau et il est mort. Mais c'est sa faute, car je ne voulais pas le tuer. La preuve est que j'ai mis une casserole sur la braise allumée dans le réchaud, mais le poussin s'est échappé et m'a dit au revoir et tous mes compliments à ta famille. Et ma faim augmentait toujours. C'est pour ça que le vieux bonnet de nuit m'a dit en montrant à sa fenêtre, « Avance un peu et tends ton chapeau. » Et moi, avec ce seau d'eau sur la tête, parce que je lui avais demandé un morceau de pain, ce qui n'est pas une honte, n'est-ce pas, papa ? Je m'en revins à la maison, parce que j'avais toujours une faim terrible. J'ai mis mes pieds sur le réchaud pour me sécher. Et vous êtes revenu et vous me les avez trouvés brûlés. N'empêche que ma faim, je l'ai toujours. Tandis que mes pieds, je les ai plus.
Et le pauvre Pinocchio commença à pleurer et à crier si fort qu'on pouvait l'entendre à 5 kilomètres de là. Jepette, qui dans ce discours désordonné n'avait compris qu'une seule chose, c'est que le pantin mourait de faim, sortit de sa poche 3 poires et dit en les lui tendant, « Ces 3 poires étaient pour mon déjeuner. Je te les donne de bon cœur, mange-les et grand bien te fasse.
Si vous voulez que je les mange, ayez la bonté de me les peler. »
« Peler ? » répliqua Jepetto abasourdi.
« Je n'aurais jamais cru, mon enfant, que tu eusses le palais aussi délicat.
Quelle fine bouche tu fais! C'est mal! Dans ce monde, il faut dès l'enfance s'habituer à manger de tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On en voit bien d'autres.
Vous parlez très bien, répondit Pinocchio, mais je ne mangerai jamais un fruit qui ne soit pas pelé. Je ne peux pas souffrir les pelures.
Et ce brave homme de Geppetto sortit un petit couteau et s'armant d'une patience angélique, pela les trois poires et posa toutes les épluchures sur un coin de la table. Lorsque Pinocchio eut dévoré en deux bouchées la première poire, il se prépara à jeter le trognon, mais Geppetto lui retint le bras, lui dit « Ne jette donc rien. Tout en ce monde peut servir à quelque chose. »
Mais vraiment, je ne pourrai jamais manger un trognon de poire, observa le pantin en se révoltant comme une vipère.
Qui sait, on en voit bien d'autres, répéta Geppetto sans s'irriter. Le brave homme fit si bien qu'au lieu d'être jeté par la fenêtre, les trois trognons vinrent s'aligner sur le coin de table à côté des plumes. Quand les trois poires furent mangées, ou pour mieux dire dévorées, Pinocchio bâilla longuement. Et dit en se plaignant encore, j'ai encore faim. Mais moi, mon enfant, je n'ai plus rien à te donner.
Rien? Vraiment rien?
Je n'aurai que ces pelures et ces trognons de poire.
Eh bien, dit Pinocchio, faute de mieux, je mangerai une pelure.
Et il se mit à mâcher. Tout d'abord, il tordit un peu le bec, puis les pelures, l'une après l'autre, disparurent dans un souffle. Après les pelures, ce fut le tour des trognons. Quand Pinocchio eut fini de tout manger, il se frappa les genoux de contentement et dit en sautant de joie,
« Maintenant, je vais très bien !»«
Tu vois donc, observa Geppetto, que j'avais raison quand je te disais qu'il ne faut être ni trop raisonneur ni trop délicat. Mon cher enfant, on ne sait jamais ce qui peut arriver ici-bas. On en voit bien d'autres. » Chapitre 8. Geppetto refait les pieds à Pinocchio et vend son propre manteau pour lui acheter un alphabet. Le pantin, dès qu'il eut apaisé sa faim, commença de se plaindre et de pleurer parce qu'il voulait une paire de pieds neufs. Mais pour le punir de ses méchancetés, Geppetto le laissa pleurer et se désespérer pendant une demi-journée. Il lui dit alors, « Pourquoi est-ce que je te referais des pieds? Peut-être pour te voir t'enfuir encore hors de la maison ?»«
Je vous promets, dit en sanglotant Pinocchio, qu'à partir d'aujourd'hui, je serai sage. »
Tous les enfants, répliqua Geppetto, en disent autant lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose.
« Je vous promets !» d'aller à l'école. Je travaillerai bien et je serai un élève modèle.
Tous les enfants, lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose, racontent la même histoire.
Mais je ne suis pas comme les autres enfants, je suis meilleur que tous les autres. Et je dis toujours la vérité. Je vous promets, papa, d'apprendre un métier. Je serai la consolation et le soutien de votre vieillesse. »
Geppetto essaya bien de faire le tyran, mais il avait malgré tout les yeux pleins de larmes et le cœur plein de pitié à voir le pauvre Pinocchio dans cet état lamentable. Il ne répondit rien aux protestations du pantin et se contenta de prendre ses outils et deux morceaux de bois sec. Puis il se mit de tout cœur à l'ouvrage. En moins d'une heure, les pieds étaient terminés, deux petits pieds sveltes, secs et nerveux, admirablement modelés par un artiste de génie. Alors Geppetto dit au pantin, « Ferme les yeux et dors !» Et Pinocchio, fermant les yeux, fit semblant de dormir. Pendant que Pinocchio faisait semblant de dormir, Geppetto, avec un peu de colle délayée dans une coquille d'œuf, appliqua les deux pieds à leur place. Il les appliqua si bien qu'il était impossible de distinguer l'endroit des jointures. À peine le pantin se fut-il avisé qu'il avait des pieds qu'il sauta de la table où il était étendu et commença à faire des gambades et des cabrioles comme s'il était soudain devenu fou de joie. « Pour vous récompenser de ce que vous avez fait pour moi, dit Pinocchio à son papa, je veux immédiatement aller à l'école. » « Tu es un bon enfant. »« Oui, mais pour aller à l'école, il me faut des vêtements. » Geppetto, qui était pauvre et n'avait pas un centime dans sa bourse, lui fit alors un petit habit en papier à fleurs, une paire de souliers en écorce et un petit chapeau en mie de pain. Pinocchio courut sur le champ se regarder dans une cuvette pleine d'eau, parce qu'il n'y avait pas de glace dans la maison, ils étaient trop pauvres, et fut si fier de lui qu'il déclara en se pavanant « J'ai vraiment l'air d'un seigneur !»« Tout à fait, » dit Geppetto, « car, retiens-le, ce n'est pas le bel habit qui fait le seigneur, mais l'habit propre. »« Mais, » ajouta Pinocchio, « pour aller à l'école, il me manque encore quelque chose. » Il me manque le plus important. Ah, quoi ? Il me manque l'alphabet. Tu as raison, mais comment nous le procurer ? Ben, c'est très facile. On va chez un libraire et on l'achète. Et de l'argent pour en acheter ? Demanda Geppetto. J'en ai pas. « Ni moi non plus, » ajouta le bon vieux tout triste. Et Pinocchio lui-même, bien qu'il fût d'un naturel très gai, devint triste à son tour, car tout le monde, même les enfants, comprend la misère lorsqu'elle est vraiment la misère. « Patience !» s'écria soudain Geppetto en se redressant vivement, et il endossa son vieux manteau de laine, son paletot, tout reprisé et rapiécé, puis il sortit de la maison en courant. Peu de temps après, il revint, et quand il revint, il tenait à la main un alphabet pour son fils. Mais il n'avait plus de paletot. Le pauvre vieux était en manche de chemise, et dehors, il neigeait. « Et votre manteau, papa, votre paletot ?»« Je l'ai vendu. »« Mais pourquoi l'avez-vous vendu ?»« Parce qu'il me tenait trop chaud. » Pinocchio comprit très bien ce que contenait cette réponse. Et ne pouvant pas réfréner l'impulsion de son bon cœur, il sauta au cou de Geppetto et se mit à l'embrasser. Chapitre 9. Pinocchio vend son alphabet pour aller voir le théâtre des marionnettes. Lorsque la neige eut cessé, Pinocchio, son alphabet sous le bras, prit le chemin de l'école. En route, surgirent de son cerveau quantité de raisonnements et de rêves magnifiques. Se parlant à soi-même, il disait « Aujourd'hui, à l'école, je vais bien vite apprendre à lire. Demain, j'apprendrai à écrire et après-demain, à compter. Et puis, grâce à mon habileté, je gagnerai beaucoup, beaucoup d'argent Et avec mon argent, je pourrai acheter bientôt un beau paletot de drap pour mon papa. Que dis-je ? Un paletot de drap de laine ordinaire. Non ! Je veux lui faire un paletot d'or et d'argent, avec des boutons en diamant. Ce pauvre homme le mérite bien, car en somme, c'est pour m'acheter des livres et me faire instruire que le voilà en manche de chemise, par un froid pareil. Il n'y a que les papas qui soient capables de faire de pareils sacrifices. Et tandis que tout ému parlait ainsi, il crut entendre au loin une musique avec des fifs et de la grosse caisse.
Boum, 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 boum.
Il s'arrêta pour écouter. Ces sons venaient du bout d'une très longue rue transversale qui conduisait à un petit pays situé tout au bord de la mer.
Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Il est bien malheureux que je sois obligé d'aller à l'école. Sans ça,
il resta là, hésitant. À tout prix, il fallait se décider. Ou bien aller à l'école, ou bien écouter les fifres. Les fifres, tu sais, c'est des sortes de flûtes.
Aujourd'hui, j'irai entendre la musique et demain, j'irai à l'école. Demain,
conclut ce petit fripon en haussant les épaules avec détachement. Là-dessus, il enfila à toutes jambes la rue transversale et plus il courait, plus il entendait distinctement le son des fifres et le grondement de la grossette.
Tut 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 brum 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 brum.
Il se trouva bientôt au milieu d'une place couverte de gens qui se pressaient autour d'une grande baraque en planches tapissée de toiles multicolores.
Qu'y a-t-il dans cette baraque ?
Demanda-t-il en se retournant à un petit garçon qui était du pays.
Ben, lis l'affiche et tu le sauras. Je la lirai volontiers, mais aujourd'hui, je ne sais justement pas lire.
Aujourd'hui. Ignorant, dit le garçon, eh bien c'est moi qui vais la lire. Sur cette affiche, il y a écrit en immenses lettres « Grand théâtre de marionnettes ».
Y a-t-il longtemps que la comédie ait commencé ?
Commence à l'instant. Combien faut-il payer pour entrer ?
Un franc.
Pinocchio, qui était pincé par la fièvre de la curiosité, perdit sur le coup toute retenue et sans avoir honte.
Veux-tu, dit-il, me prêter un franc jusqu'à demain ?
Je te les donnerai volontiers, répondit l'autre.
Mais aujourd'hui, je les ai justement pas.
Pour un franc, je te vends mon habit,
lui proposa le pantin.
Oh, que veux-tu que je fasse d'un habit en papier peint, répondit l'enfant. S'il pleut dessus, l'eau vous arrive jusqu'aux os.
Veux-tu m'acheter mes souliers ?
Oh, tes souliers sont tout juste bons pour faire du feu.
Et combien me donnes-tu pour mon chapeau ?
Belle acquisition, vraiment. Un bonnet en mie de pain, pour que les souris viennent me le manger sur la tête.
Pinocchio était comme sur des épines. Il ne lui restait plus qu'une proposition à faire, mais il n'en avait pas le courage. Il hésitait, il souffrait. Finalement, il dit :
Veux-tu me donner un franc ? De cet alphabet tout neuf.
Je suis un enfant et je n'achète rien aux enfants, répondit l'autre, qui avait plus de jugement que lui.
Pour un franc, c'est moi qui prends l'alphabet,
cria un revendeur qui avait suivi la conversation. Et Pinocchio vendit l'alphabet pour un franc. Et dire que ce pauvre Geppetto, son papa, était resté à la maison à trembler de froid, en manche de chemise, pour avoir acheté cet alphabet à son fils. Chapitre 10e. Les marionnettes reconnaissent Pinocchio, leur frère, et lui font une belle ovation, mais survient Mangefeu, le directeur du théâtre, et Pinocchio risque de mal finir. Quand Pinocchio entra dans le théâtre des marionnettes, il se produisit un commencement de révolution. Le rideau était déjà levé et la pièce déjà commencée. Sur la scène, Arlequin et Polichinelle étaient en train de se disputer. Selon leur habitude, ils se menaçaient mutuellement d'une rossée de soufflet et de coups de bâton. Le public attentif riait à perdre haleine en écoutant les deux pantins qui se disputaient, gesticulaient et échangeaient leurs injures avec un tel accent de vérité que l'on aurait cru entendre deux êtres raisonnables et bien vivants. C'est à ce moment qu'à l'improviste, Arlequin, abandonnant son récit et faisant face au public, montra du doigt un spectateur assis au fond du parterre.
Dieu du ciel ! S'exclama-t-il. Est-ce que je dors ou suis-je bien éveillé ? C'est Pinocchio que j'aperçois là-bas.
C'est bien Pinocchio, affirma Polichinelle.
C'est bien lui ! S'écria Madame Colombine en glissant un coup d'œil au fond de la salle.
C'est Pinocchio ! C'est Pinocchio ! C'est Pinocchio !
Crièrent en chœur tous les pantins en s'élançant hors des coulisses.
C'est Pinocchio ! C'est notre frère Pinocchio ! Vive Pinocchio !
Pinocchio, viens jusqu'à moi ! Cria Arlequin. Viens te jeter dans les bras de tes frères de bois.
À cette affectueuse invitation, Pinocchio ne fit qu'un saut et du fond du parterre, il parvint aux places réservées, monta sur la tête du chef d'orchestre et de là surgit sur la scène. Il est impossible d'imaginer les embrassements, les étreintes, les démonstrations d'amitié, les protestations fraternelles que reçut Pinocchio de la petite troupe qui échangea 1000 bousculades pour arriver jusqu'à lui. Vraiment, le spectacle était émouvant. Mais le public, constatant que la pièce ne continuait plus, s'impatienta.
On se mit à crier « C'est la pièce qu'il nous faut ! C'est la pièce qu'il nous faut ! C'est la pièce qu'il nous faut !»
Bientôt, le tumulte augmenta, car les marionnettes, au lieu de continuer la comédie, redoublaient leurs cris et leurs tapages. Elles mirent Pinocchio sur leurs épaules et le portèrent en triomphe. C'est alors que survint le directeur du théâtre. C'était un gros homme si laid qu'on avait peur en le voyant. Il avait une vilaine barbe noire comme de l'encre et si longue qu'elle touchait par terre et qu'il la foulait aux pieds en marchant. Sa bouche était large comme un fou. Ses yeux paraissaient comme deux lanternes de verre rouge avec de la lumière dedans. Il tenait à la main un énorme fouet fait de peaux de serpent et de queues de loup entortillées ensemble. À l'apparition inattendue du directeur des marionnettes, toute la troupe fut frappée de mutisme et se tut. Personne ne dit mot. On aurait entendu une mouche voler. Ces pauvres pantins, hommes et femmes, tremblaient comme des feuilles.
« Pourquoi es-tu venu mettre le trouble dans mon théâtre ?» demanda le patron à Pinocchio avec la voix d'un noble.
« Croyez bien, très illustre seigneur, que la faute n'est pas à moi, » dit Pinocchio.
« Suffit, ce soir nous réglerons nos comptes. »
Lorsque la séance fut terminée, le patron se rendit à la cuisine où l'on préparait pour le dîner un beau mouton qui tournait lentement sur la broche. Comme il manquait du bois pour finir de faire cuire l'animal, Mangefeu appela Arlequin et Polichinelle et leur dit
« Apportez-moi ici le pantin que j'ai accroché à un clou. Il me paraît être fait de bois très sec. Je suis sûr qu'en le mettant dans le feu, j'obtiendrai une belle flambée pour mon rôti. »
Arlequin et Polichinelle hésitèrent tout d'abord, mais effrayés par le regard farouche de leur patron, ils obéirent. Peu après, ils revinrent à la cuisine en portant sur leurs bras le pauvre Pinocchio, qui se tortillait comme une anguille hors de l'eau et s'écriait désespérément
« Papa, mon beau papa, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. »
Fin de la deuxième piste de la première cassette de Pinocchio de Collodi. Page 63. Change de cassette.